maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de deux thérapeutes qui ont eu l'occasion, une fois de plus, de parler du jeu de société dans le cadre de la rééducation d'aphasique. Si vous regardez un petit peu dans l'historique du site internet des Soirées Terribles, vous retrouverez un événement qui s'appelle les Neuroludiques. Et nous sommes de nouveau en compagnie donc de Agnès Brison, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Nathalie Guéry.
Bonsoir.
Agnès Brison, on avait eu l'occasion de se croiser lors de l'organisation du premier samedi neuroludique. On va en reparler évidemment. Et Nathalie Guéry, vous n'êtes pas l'organisatrice du neuroludique, mais vous êtes associée à Agnès Brison pour la participation à un symposium qui s'est passé à l'Université catholique de Louvain, qui avait pour trait l'utilisation du jeu de société dans la rééducation des aphasiques. Vos activités professionnelles sont liées à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Est-ce que vous pourriez me détailler exactement quelles sont ces activités ?
Les activités à l'hôpital Erasme, donc moi je suis neurolinguiste, donc c'est rééducation et évaluation des troubles du langage, de la parole et de la dysphagie, donc de la déglutition. Et donc voilà, donc en général ce sont des rééducations individuelles, sauf pour l'heure de groupe, qui est une rééducation collective, comme je disais tout à l'heure, d'aphasiques qui sont hétérogènes. Donc il y a des personnes qui comprennent bien et qui s'expriment plus difficilement, et d'autres qui comprennent moins bien et qui parlent beaucoup.
Nathalie Guéry.
Donc moi je suis logopède à l'hôpital Erasme, plutôt en hospitalisation, donc quand les personnes viennent de faire leur accident vasculaire cérébral, mais aussi des consultations pour des personnes qui ont eu cet accident vasculaire cérébral mais à plus long terme. Et donc moi, comme je ne fais pas comme Agnès des activités de groupe, mais alors j'utilise plutôt le jeu de société en individuel, donc des jeux qui peuvent se jouer à deux.
Agnès Brison, ce symposium avait trait au jeu de société en général ou bien c'était un sujet que vous aviez décidé d'aborder ?
Non, c'était un symposium à propos de l'aphasie et de l'avancée en aphasiologie. Et nous avions décidé de faire un exposé sur l'atelier jeu de société pour patients aphasiques parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les hôpitaux et que nous organisons très régulièrement à l'hôpital Erasme.
Donc c'était un sujet parmi d'autres, c'était pas la volonté de voir des nouvelles manières d'utiliser des objets de tous les jours dans la thérapie ?
Non, c'était un sujet parmi d'autres, c'était ce qui se faisait chez nous.
Et donc quel était le contenu de votre exposé justement ?
En gros, notre exposé montrait que nous arrivons à faire jouer des patients aphasiques en groupe hétérogène, donc des patients fluents et des patients non fluents, à des jeux de société, en plus de leur rééducation individuelle.
Alors, on peut juste réexpliquer les tenants et les aboutissants de votre métier. C'est-à-dire, vous êtes thérapeute et vous rééduquez des gens qui ont perdu l'usage de la parole. Et vous êtes toutes les deux dans cette optique-là, Nathalie ?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on prend en charge des patients qui ont eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, et qui, suite à cet AVC, ne savent plus parler correctement. Donc, soit ils ne trouvent pas les mots comme il faut, soit ils n'arrivent plus à faire sortir les mots. Enfin, ce sont des symptômes parmi d'autres. Et donc, dans le cadre de leur rééducation, on leur propose des jeux de société.
Il existe plein de jeux de société qui sont faits pour ça, hein, puisqu'il y a des éditeurs qui font des jeux éducatifs. Et vous avez décidé d'utiliser des jeux dits modernes, des jeux d'auteur. Pourquoi ?
Parce que nous travaillons avec des adultes aphasiques. Donc, ce sont des adultes qui ont perdu la capacité de s'exprimer, de communiquer, comme disait Nathalie, mais qui ont des capacités intellectuelles qui sont largement préservées. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeux ludo-éducatifs. Ils peuvent tout à fait accéder aux règles des jeux de société qui sont dans le commerce.
Mais malgré tout, le jeu de société ludo-éducatif existe et est utilisé dans le cadre de votre métier.
Oui, c'est utilisé aussi.
Nathalie, vous l'utilisez aussi ?
Le jeu ludo-éducatif ? Pas vraiment, non. Souvent parce que je trouve que le matériel qu'on a à disposition avec ce jeu, ça ne recrée pas une situation naturelle d'abord. Et en plus, je trouve que ce n'est pas toujours adapté aux patients qu'on a en face de nous. Alors que le jeu moderne, comme vous dites, c'est un objet de tous les jours. Et donc là, ça permet d'aborder des choses de la vie de tous les jours avec le patient, en plus de ce qu'on lui propose en rééducation individuelle, enfin, ou dans les exercices qui sont plus adaptés à ses difficultés. Donc c'est une façon de réaborder la vie de tous les jours.
Et c'est ça qui est important, en fait, dans la revalidation des personnes cérébro-lésées, c'est de retrouver des réflexes de la vie de tous les jours.
Mais donc, la rééducation, donc il y a le fait de réapprendre ou de trouver de nouveaux moyens à faire sortir les mots, à comprendre ce qu'on vous dit ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est, la rééducation sert à ça. Mais après, il faut insérer ça, évidemment, dans la vie de tous les jours. Et donc, le jeu de société est un moyen, un des moyens d'aborder cette vie de tous les jours et de transférer ce qu'ils ont appris dans d'autres exercices dans la vie de tous les jours.
Par son essence, le jeu de société implique que les joueurs partagent des règles communes et donc partagent un référentiel qui est commun. Donc, ils vont devoir d'abord lire les règles ou les écouter, parce que certains n'arrivent pas à lire et donc il faudra les lire pour eux. Il va falloir les comprendre, les retenir, et seulement à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir jouer et profiter de ce moment de plaisir, parce que finalement, si on fait des jeux, c'est vraiment parce que c'est un moment de plaisir. Et donc, pour rebondir avec ce que Nathalie avait dit tout à l'heure par rapport au jeu ludo-éducatif, que je ne critique pas du tout, mais c'est vrai que je n'emploie pas non plus. Pourquoi je ne les emploie pas? C'est parce que les patients ont souvent l'impression que ce sont des exercices logopédiques déguisés. Or, quand on vient avec un jeu de société, ben, ils le reconnaissent. Ils l'ont même parfois vu dans le commerce. Et donc, pour eux, là, c'est vraiment un jeu. Même s'ils savent qu'on va, on va améliorer ou on va entraîner, en tout cas, une habileté qu'ils ont un petit peu perdue.
Pour revenir à ce symposium dont nous avons parlé au début, c'est un sujet qui n'est pas habituel, donc c'est plutôt étonnant d'aborder ce genre de sujet-là dans un symposium. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? Il y avait un message à passer?
C'est plutôt osé, je pense, oui, de présenter ça dans un symposium. Et le but, c'était, je pense que ça fait partie de la spécificité du centre où Agnès travaille. Donc vraiment, on utilise ce jeu de société. Je crois que ça ne se fait pas beaucoup dans les autres centres de rééducation, voire pas du tout. Donc c'est vraiment une spécificité de l'hôpital chez nous. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on voulait faire partager cette expérience et montrer que ça marche avec ses patients et que le jeu est un bon vecteur pour que nos patients se retrouvent acteurs de parole, ce qui est le but premier de notre éducation.
Alors, vous venez de le dire, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le fait que ça marche?
Alors, ça pourrait tout aussi bien marcher avec un atelier cuisine où les patients auraient à lire une recette, à la comprendre, à l'appliquer, et à ressortir leur plat tout chaud du four. Mais ici, ça marche parce que finalement, ce qu'on obtient, c'est de la communication. De par l'essence, comme je le disais, mais ça, c'est comme avec une recette de cuisine, mais bon, comme nous sommes logopèdes, on va peut-être moins cuisiner, on va laisser ça aux ergos. Nous, on a un matériel dans nos armoires qui va nous permettre de stimuler des facultés cognitives, le langage, la mémoire, le calcul, la parole, la dénomination, l'évocation, qu'on simulerait sans doute moins avec une recette de cuisine.
Et je pense aussi que ça permet aux patients, donc le fait d'utiliser des jeux du commerce grand public que tout le monde peut avoir chez soi, ça leur redonne une estime de soi qui leur permet de se réappuyer sur ce qu'ils ont vu en rééducation, de s'appuyer sur leurs facultés restantes et alors de pouvoir progresser dans leur vie de tous les jours.
Donc, oui.
Oui, non, mais c'est vrai aussi qu'ils sont souvent assez fiers de pouvoir rentrer à la maison avec les jeux qu'ils empruntent. Ils nous demandent s'ils peuvent l'avoir pour le week-end et de montrer finalement à leurs enfants, à leur époux, à leur épouse ou même à leurs parents qu'ils sont toujours capables de jouer avec les vraies règles.
On l'a dit, ces personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral ont des difficultés pour s'exprimer. Parfois, il faut même leur lire les règles plutôt que de les faire lire par eux-mêmes. Il y a quand même des adaptations que vous faites à ces jeux de société.
En fait, très peu. L'adaptation qu'on fait à la limite, c'est qu'on choisit les jeux, on les sélectionne en fonction de nos patients, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va plutôt viser des jeux qui ont une prise en main rapide, donc ça veut dire auxquels on pourra rapidement jouer, donc où les règles sont plus courtes, et des jeux aussi pour lesquels il y a moins de matériel à manipuler. Donc un jeu qui aura beaucoup de cartes ne sera pas utilisable en raison régulièrement d'hémiplégie. Donc voilà, donc ça c'est la sélection. Après, les règles, quand vous regardez, vous devez vous y connaître mieux que moi dans le jeu de société, mais quand vous regardez les règles de jeu, il y a généralement règles de base. Et puis après, on peut passer à un niveau plus confirmé. Et donc nous, bien souvent, on commence par les règles de base et on reste parfois dans les règles de base pendant très longtemps avant de passer à un niveau confirmé.
Alors, nous y sommes. Quels sont les jeux que vous utilisez, justement? Donc, si on part avec Nathalie Guéry, dans le cas où c'est des jeux individuels, quels sont les jeux que vous utilisez le plus?
Donc, moi, j'utilise beaucoup de jeux à base d'images, donc, notamment le Dixit. J'utilise le Cache Tomate. Tout ce qui est les dés des Story Cubes, le Panic Lab.
Et Agnès Brisson.
Ouh. Alors, bah, Dixit, ça marche aussi en groupe. Bubble Talk, que j'emploie pour l'instant aussi. Picomino, ça c'est plus pour le calcul. Qu'est-ce qu'on emploie encore? Buzz It, là c'est plus pour l'évocation. Le Cognito, qui est plus compliqué. Pour évoquer des suites, des automatismes verbaux. On a aussi le double, qui va être aussi un exercice, vous voyez, un jeu d'évocation rapide, de dénomination rapide. Alors, il y a aussi le jeu Pickpocket, qui n'est pas un jeu de langage, si ce n'est qu'il faut comprendre les règles et être capable de les appliquer, mais qui est un jeu plus de prise de risque et un petit peu de bluff. Et alors... aussi Marrakech, un jeu de placement de tapis qui est assez simple, mais les patients aiment bien, et puis il faut avancer du bon nombre de babouches. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les patients doivent chaque fois se rappeler, au niveau mnésique, il est intéressant parce qu'ils doivent se rappeler de bouger Hassan, le petit personnage, avant de le faire avancer. S'ils ne le font pas, ben, si on applique la règle, ben, tant pis pour eux, ils risquent de marcher sur le tapis d'un autre et de devoir donner beaucoup de souffle.
Et donc, à choisir un ou deux jeux que vous utilisez en expliquant exactement quel est l'intérêt que vous voyez dans ces jeux-là dans le cadre de vos thérapies.
Donc, si on prend par exemple le cache-tomate, que moi j'utilise quand même pas mal en rééducation, parce que ça va travailler déjà la mémoire, hein, puisque les cartes sont retournées et les patients doivent se souvenir de, les patients doivent se souvenir de l'image qui est sous chaque catégorie. Donc, ça travaille la catégorisation. Hein, y a tous les légumes, les fruits. Ça permet de travailler par catégorie sémantique. Et puis, le patient doit produire l'image qui est cachée. Donc, à chaque fois, la production d'un mot isolé.
Donc, un simple memory n'est pas suffisant.
Le memory, vous ne devez pas produire le mot. Donc, ça ne suffit pas. Enfin, ce n'est pas pareil. Et je pense que c'est beaucoup plus ludique et plus amusant. Donc, ça permet plus de travailler en s'amusant qu'un memory qui est peut-être un peu plus rébarbatif. Donc, il y a aussi Bazar Bizarre que j'utilise et que j'ai cité juste avant. Et donc là, ça va travailler plus la flexibilité mentale puisqu'il faut sélectionner un objet en fonction des critères de couleur et d'objets qui sont soit présents, soit manquants. Donc, il y a tout ce travail mental à réaliser assez rapidement, évidemment. Et alors, il faut parfois aussi inhiber une réponse, le fait de prendre l'objet qui n'est pas le bon.
Et en termes de manipulation, là, c'est quand même un jeu de rapidité, il faut un peu se jeter sur la table, on va dire. C'est pas problématique par rapport à des patients qui ont une hémiplégie?
Généralement, on essaye aussi qu'ils se débrouillent le plus possible avec leur main gauche, puisque souvent, l'aphasie, ça arrive sur des lésions gauches, ce qui crée une hémiplégie droite, souvent chez des patients qui sont droitiers. Mais donc, s'ils gardent cette hémiplégie comme ça à plus long terme, ils doivent aussi apprendre à se débrouiller avec cette main gauche. Donc voilà, ça permet aussi de travailler ça, ce qui n'est pas du tout logopédique, mais voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours.
Ça rejoint effectivement votre approche. Agnès Brisson?
Oui, j'emploie aussi des jeux, mais donc plus en groupe. Moi, c'est principalement en groupe. Donc, je vais juste en citer quelques-uns, comme par exemple Dixit. Donc, Nathalie l'utilise aussi, et je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais je l'emploie. Pourquoi? Je l'emploie pour l'expression orale, pour l'inhibition, pour l'abstraction, pour la compréhension auditive et pour le raisonnement hypothético-déductif. J'emploie aussi le jeu Timeline, qui maintenant existe en 3 versions. Donc, c'est un jeu où on doit placer des cartes sur lesquelles il y a des découvertes ou des grands moments de l'histoire, mais on n'a pas la date. On place la carte avec la date en dessous. Et puis, on a une autre carte qu'on doit placer d'une façon chronologique par rapport à cette première carte. Et on doit faire des hypothèses. Où est-ce que ça va aller par rapport à, à sa connaissance du monde. Et ça, c'est très, très gai parce que les adultes ont une bonne connaissance du monde en général. Et même ceux qui auraient une moins bonne culture s'amusent beaucoup parce qu'ils arrivent à replacer et puis tout le monde discute et tout le monde s'entraide finalement à mettre cette carte. Et c'est ça que je recherche, c'est de la communication. Donc dans Timeline, il faut aussi lire parce que le nom de la découverte est écrit. Comprendre les nombres, ça va être des dates en négatif ou en positif. Donc être capable de faire une sériation chronologique et avoir une certaine mémoire sémantique. Mais encore une fois, même si on n'était pas très doué au cours d'histoire, c'est pas pour ça qu'on peut vraiment bien s'amuser à Timeline, qu'on ne peut pas bien s'amuser à Timeline. Alors, j'emploie aussi donc le pickpocket, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour la mémoire prospective et le raisonnement hypothético-déductif. Tout à l'heure, j'avais cité aussi Marrakech, ça c'est donc pour les capacités visio-spatiales, tout se passe sur un plateau de jeu, les habiletés de calcul et le raisonnement hypothético-déductif. Donc là, c'est le fait de se dire, il vaut mieux que je tourne mon personnage par là, comme ça j'aurai moins de risques de tomber sur le tapis d'un autre. Et le buzzit aussi pour donc les fluences. Buzzit, il faut donner un maximum de mots appartenant à une certaine catégorie. Enfin, ce ne sont pas des catégories sémantiques, mais ce sont par exemple tous des noms de pays. Oui, sauf que ça, c'est une catégorie sémantique. Des choses qu'on ferait seul, des choses qu'on ne ferait pas seul, ou qui serait capable de garder un secret. Voilà, et donc on doit donner tous des exemples. Là, donc, ce sont des fluences, c'est de la flexibilité mentale. Et on peut aussi donner des exemples de sa propre vie, donc des exemples de mémoire autobiographique ou comme des clichés de mémoire sémantique. Aussi, les story cubes, comme disait Nathalie, maintenant, il y en a déjà 3 qui sont sortis. Enfin, moi, j'en ai 3, je ne sais pas s'il y en a plus. Ceux avec les substantifs, les verbes et aussi les vacances. Et donc, ce sont 9 cubes qui ont chacun 6 faces. Qu'on jette et puis on demande au patient d'inventer une histoire. Et ça, c'est intéressant par rapport à la production de phrases et également par rapport à la cohérence discursive. Alors, en fonction du patient, des patients, on pourra aussi peut-être leur faire écrire certains textes où ils vont devoir se souvenir du début de l'histoire racontée par l'autre. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que il y a énormément de jeux de société qui sortent chaque année. Je pense que cette année, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais il y a 800 jeux qui sont sortis, c'est ça?
C'est ce qu'on raconte, oui.
Voilà, donc 800 jeux sortis. Évidemment, les logopèdes comme nous sont avides de jeux de société. On a envie de voir comment on pourrait les utiliser avec nos patients. Et il y a un système qui s'appelle le système ESAR, qui a été conçu en 1982 par Denise Garon, et puis qui a été remanié en 2002 par ses collaborateurs, et qui permet en fait l'analyse psychologique, la classification et l'organisation des jeux et des jouets. Donc ESAR veut se faire reconnaître comme un outil de recherche scientifique qui a été notamment inspiré des travaux de Piaget et donc il reprend les étapes chronologiques du développement de l'enfant. Chaque objet ludique va être décrit en fonction des habiletés qu'il requiert, donc par rapport à l'enfant, à l'adolescent, mais même à l'adulte. Et il y a plusieurs catégories. D'abord, ça va passer par les jeux d'exercice. Ça, c'est vraiment pour les bébés, ou les jeux symboliques, faire semblant, imiter, ou encore les jeux d'assemblage, comme les puzzles ou les Lego. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les jeux de règles, qui sont les jeux avec un code précis et des règles qui doivent être respectées par tous les joueurs. Donc, ce système a déjà classifié plus de 263 jeux, je pense, et il est accessible dans certaines ludothèques. Et il a été, on peut tous le compléter. Donc, on peut aller sur le site de ESAR et aller chercher les fiches qui correspondent aux jeux et aux objets ludiques et compléter de par notre expérience.
Donc, ça s'écrit ESAR et ça se retrouve sur quelle adresse?
Donc, www.systeme-esar.org. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. A d'ailleurs contribué au développement de cet outil ESAR, donc qu'on peut trouver dans les ludothèques, mais qui ne décrit pas tous les jeux que nous utilisons, évidemment, mais qui en décrit déjà certains, et qui sait peut-être que les logopèdes vont contribuer à augmenter le stock de descriptions de jeux disponibles.
Donc il suffit d'y aller et mettre à jour ces fiches. Alors, pour clôturer, on va parler des neuroludiques. Donc ça a déjà eu lieu plusieurs fois. C'est quoi l'idée de ces samedis neuroludiques?
Bien justement, l'idée des samedis neuroludiques, c'est que suite au groupe jeu, Les patients demandaient pour ramener des jeux de société chez eux pendant le week-end pour jouer avec leur, leur famille. Et on s'est rendu compte que dans le quotidien de nos patients est quand même assez, assez prévisible. Voilà, il y a des routines qui s'installent, il faut prendre le minibus, venir jusqu'au centre, faire sa rééducation. Et puis, souvent, ils n'ont plus l'occasion de se déplacer comme avant. La sphère familiale change, les amis aussi changent. Et voilà. Et donc, finalement, on s'est dit, mais c'est un moyen, en organisant comme ça un samedi neuroludique, c'est un moyen de réunir les patients aphasiques, leurs familles, les membres de leur famille qui sont désireux de venir, et même leurs thérapeutes, parce qu'il y a des patients qui ont quitté le centre ou qui sont juste, qui ont été hospitalisés chez nous avec Nathalie, et donc après qui s'en vont, qui sont suivis par une autre thérapeute. Donc c'est un moyen de réunir tout ce petit monde et de passer un moment convivial autour d'un référent commun qui est le jeu de société. Et donc on a, on a la chance de vous avoir avec tous les jeux que vous apportez. Et voilà, et avec les coachs de jeu que vous apportez aussi, qui coachent les thérapeutes, qui eux s'occupent des tables de jeu et qui vont eux-mêmes prendre en main rapidement les règles des jeux. C'est-à-dire que les thérapeutes vont expliquer les règles aux familles, comme ce sont des prises en main rapides, en 2-3 minutes ça suffit, et vont s'assurer du bon fonctionnement du jeu, du respect des tours de parole. Mais bon, tout ça, ça se passe. Ça a l'air compliqué quand je le dis comme ça, mais ça coule de source.
Nathalie Guéry, vous avez déjà participé aux anciens neuroludiques, on va dire, des années précédentes. Lorsqu'on voit un des patients arriver avec sa famille et jouer, il se passe quelque chose qui est hors contexte de la thérapie ?
Oui, tout à fait, je pense. Je pense que le mot le plus important pour ces samedis neuroludiques, c'est vraiment le mot convivial. Donc, on a vraiment l'impression que tout le monde est là pour une chose, c'est-à-dire se retrouver et jouer ensemble et passer vraiment un bon moment ensemble.
Et d'une certaine manière, ça démontre à la famille que la personne cérébro-lésée est restée finalement normale.
Et je pense que ça, c'est vraiment le plaisir de la personne cérébro-lésée, parce qu'il n'y a pas que des aphasiques. Il y a aussi des patients qui ont d'autres problèmes dits plus cognitifs, donc plus des problèmes de mémoire ou d'attention, par exemple. Et je pense que vraiment, le patient a le plaisir de montrer à sa famille qu'il est tout à fait capable de jouer à n'importe quel jeu, un jeu qu'on prend comme ça sur la table. Il suffit qu'il y ait une personne pour expliquer les règles, éventuellement un thérapeute pour adapter un petit peu la compréhension de la règle ou certaines choses comme les tours de, enfin, vérifier ses tours de parole, etc. Et voilà, c'est comme une après-midi en famille où tout le monde joue.
Donc ça recentre un peu la personne au centre de sa famille, et c'est là que la convivialité. C'est là que la convivialité est née, puisqu'il y a une chaleur qui se dégage. Et après, j'imagine, je ne l'ai pas vérifié, mais la personne qui rentre chez elle a vraiment amené quelque chose en plus, a ramené quelque chose dans sa famille.
Ramener sûrement quelque chose. Et je pense qu'elle est mise tout à fait au centre. Enfin, c'est l'objet central. Donc, cet après-midi permet vraiment de redonner cette estime dont je parlais avant, cette estime de soi. Il a pu montrer des choses à son entourage ou à sa famille ou peut-être à des amis, je ne sais pas toujours qui les accompagne. Et je pense qu'ils reviennent chez eux avec une certaine fierté, ce qui doit vraiment faire du bien après toutes les épreuves qu'ils ont passées.
Oui, je rebondis juste sur ce que Nathalie a dit, parce qu'elle a employé plusieurs fois le mot « plaisir ». Et c'est vrai que sans plaisir, il n'y a pas de jeu. En fait, c'est vraiment ça aussi. C'est aussi pour ça qu'on emploie le jeu de société.
Bien, donc les neuroludiques, ça aura lieu le 13 octobre. De quelle heure à quelle heure ?
De 14h à 17h au CRFNA. Donc ça se trouve dans le bâtiment Bucopa de l'hôpital Erasme. C'est un événement qui est entièrement gratuit. Et donc c'est réservé pour les patients et leurs familles ou leurs thérapeutes.
Donc l'adresse, si on n'a pas été soigné à Erasme.
Donc, hôpital Erasme, le bâtiment Bucopa, c'est 806 route de Lénique. L'hôpital Erasme, c'est 808 route de Lénique.
Ils sont l'un à côté de l'autre, de toute façon.
Anderlecht.
Ok, merci beaucoup Agnès Prison.
Ben, de rien, merci à vous.
Et merci Nathalie Guéry.
Mais merci.
Et à très bientôt pour le samedi neuroludique.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.